J'ai un fanatisme austère, Médicis avec toi commis la triste Saint-Barthélemy. Charles IX, cette nuit sanglante, frappa l'unité protestante, l'église a du sang pour blason, peut-elle encore avoir raison? Abjurant le protestantisme, te livrant au catholicisme, géant qui signa des deux mains le savant traité de Vervins, en promulguant l'édit de Nantes, tu calmas de part discordante Henri IV et tu damnais, puisque tu fus assassiné. Géant à la soutane rouge, cardinal, ministre d'un bouge, si 18 ans tu gouverneras, ce sont des ans d'assassinat. Et de par Marion Delorme, Richelieu, ton crime est énorme, plus sévère que tu ne crois, j'en rends responsable ta croix. Géant qui trône dans l'intrigue, qui d'Augsbourg provoqua la ligue, toi dont la profession de foi se résout dans l'état c'est moi. Louis XIV, en toute franchise, tu fus l'instrument de l'église, toi qui révoquas cet édit, par qui la paix avait grandi. Toi que l'on mit aux Invalides, fameux géant des pyramides, toi qui fis Austerlitz et l'eau, Friedland, Wagram, Waterloo, Bonaparte, illustre vampire, premier consul à Volandir, toi qui signas le concordat, d'un pape tu fus le soldat. Plus de 30 ans de république, et toujours la même pratique, le fanatisme est de ce temps, ce qu'il était voilà 100 ans. Car d'un pouvoir le pape abuse, le prêtre avec l'enfant s'amuse. Père, prends garde à ce pourceau qui guette ton fils.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. On a changé un peu de générique aujourd'hui, mais voilà, c'est pour changer, quoi. Et nous avons aujourd'hui deux invités. Sylvie et Daniel. J'allais dire Alain, mais je sais pas pourquoi. Bonjour.
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 Et donc, aujourd'hui, on va continuer un peu sur la lancée de ce dont on parlait ensemble, puisque c'est la troisième émission que nous faisons avec Daniel, sur plusieurs choses, en fait, les conditions de travail quand on est psychologue dans une institution publique. Et puis une réflexion sur la psychothérapie, sur les psychothérapies, etc. Est-ce que c'est bien présenté ou
bien dans la norme?
Tu avais des précisions. Tu disais que tu avais toi-même des précisions par rapport à la précédente émission.
Oui, une petite correction.
Rappelle tout le contexte. Alors, parce que pour ceux qui avaient raté l'épisode précédent.
Bon, alors la semaine dernière, j'ai évoqué un documentaire qu'on trouve en ligne sur François Toscaïès qui s'appelle Une politique de la folie. Alors, c'est un documentaire qui a été réalisé par trois personnes. Alors, Jean-Claude Polac, Daniel Sivadon et François Pain. La dernière fois, j'ai fait une étrange erreur, j'ai dit Jacques Pain, donc c'était François Pain. Bon, voilà, je voulais corriger. Pareil, à propos de Camille Claudel, j'ai évoqué 27 ans d'enfermement. Bien entendu, c'est 30 années d'internement définitif. Voilà, juste cette petite précision.
D'accord.
Donc Denis, tu avais des questions par rapport à...
Je voulais un peu que tu décrives le milieu dans lequel tu travaillais, à savoir une institution publique. Qu'est-ce que c'est comme... quelle est la fonction de cet établissement? C'est un hôpital psychiatrique ou...
Alors non, c'est un hôpital général, situé en banlieue nord,
oui.
Avec une unité psychiatrique.
D'accord.
Mais il y a différents services, oui. Voilà... diabétologie, gériatrie, oui. Etc., etc.
Il y a des urgences psychiatriques?
Oui, des urgences, un service d'urgence. Assez surchargé comme tous les services d'urgence et brutal, où personne ne peut prendre le temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses sont constituées pour qu'on ne puisse pas prendre le temps. Tout est fait pour que... Donc c'est un amoncellement de personnes qui arrivent dans des états souvent dramatiques et qui sont dispatchées, réparties en fonction des personnes qui sont là. Bon, alors, comme moi je bosse en unité, enfin je bossais là-bas en unité psychiatrique, on voyait arriver des personnes qui avaient passé 24 heures, 48 heures... aux urgences, dans des époques qui avaient été vues comme ça à la hâte par un psychiatre, qui devait remplir un certificat, bon, et ensuite qui nous était adressé à l'intra, mais souvent dans des états de stress maximalisés, bien sûr, parce qu'arriver aux urgences, d'ailleurs pas besoin d'arriver aux urgences dans un état de détresse psychologique pour être stressé, hein. Arriver aux urgences tout court, c'est stressant.
Voilà. Et même hors des urgences, il peut y avoir aussi des situations stressantes quand tu exerces ta profession au sein de cette institution.
Alors, oui, alors, pour les... J'ai peut-être, la toute première fois où je suis venu, j'ai peut-être évoqué cela. Un patient arrive, admettons, pour une crise d'angoisse majeure, il arrive aux urgences, si son état pose question, interroge le psychiatre, il estime qu'en fait il ne faut pas qu'il ressorte tout de suite. Bon, il nous a adressé, donc il est adressé donc en ce qu'on appelle le secteur fermé. Donc il ne pourra pas ressortir tout de suite, il faut qu'il soit vu. Mais souvent, par exemple, s'il arrive le week-end, il faut attendre le lundi. Bon, ce qui fait qu'il va passer, le week-end dans un cadre morne, dans le meilleur des cas, terrifiant, le plus souvent, c'est-à-dire entouré de personnes, souvent délirantes, très angoissées. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effet de contagion psychique, hein, quand tu arrives dans un lieu où tout le monde est angoissé, délirant, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui favorise le rassemblement de ces forces vives. Mm-hmm. C'est très angoissant. Je me souviens de personnes de 19-20 ans. Moi, je bossais donc en psychiatrie adulte générale. L'angoisse forte, terrible, désorganisante qu'éprouvaient jeune femme qui arrivait, qui se retrouvait voilà, au milieu de personnes qui pouvaient être schizophrènes, qui étaient extrêmement... En plus, que je dis schizophrène, c'est-à-dire que tout ça, le lieu potentialise l'angoisse. On a vraiment l'impression que les murs sont laids, enfin, je veux dire, il n'y a pas de décoration, les couleurs sont ternes, enfin, c'est horrible, comme oui. J'avais dû l'évoquer.
C'est impersonnel, les personnes oui. Qui arrivent se sentent complètement quelconques, en fait, fait de ce décor impersonnel.
Oui, bah, par exemple, les couleurs, oui. c'est vraiment moche. Avant de bosser dans cet hôpital, j'ai bossé dans un hôpital de... disons parisien, enfin c'était disons une unité d'un plus grand hôpital qui lui est situé en province, dans le 20e, c'était là aussi sinistre. On avait l'impression d'être, alors vraiment, je n'exagère pas, on avait l'impression d'être à la fin de Midnight Express, tu sais, quand les gens tournent autour d'une sorte de pylône. Bon, moi ce que j'ai vu à chaque fois, c'est ça, quoi. Il n'y a pas d'espace pour se mouvoir. Donc, si tu veux, bon, sortir, il faut demander la permission. Il faut demander tout le temps la permission. Donc, c'est très infantilisant, par ailleurs. Mais, donc, les patients tournent autour d'un dispositif circulaire qu'il est difficile de ne pas appeler un panoptique, quand même, hein, la salle de transmission. Donc, c'est constitué vraiment comme le panoptique de Bentham, quoi. Oui, c'est répétitif. Ça m'évoque peut-être plus encore ce que j'ai vu, c'est la conduite, les stéréotypiques des animaux, si tu veux, en captivité, qu'évoque un peu Racamier dans un texte que je conseille, qui s'appelle « Psychanalyse sans divan », je l'avais un peu parlé, un ouvrage collectif de Diatkine, Racamier, Bécard, Lebovici, et quelques autres, qu'un texte, je crois, de 73, sur la vie institutionnelle, et à un certain moment... un des psys évoque, compare, si tu veux, les conduites de certains patients chroniques, patients disons chroniques, avec les stéréotypies d'animaux en captivité. Je sais pas si vous avez vu ce spectacle absolument désolant et triste de lynx ou de fauve qui tournent comme ça.
Oui, qui tournent, ouais.
Voilà. Voilà. Donc, non, c'est pas vraiment quelque chose qui favorise. La créativité et la joie.
Alors, quand tu décris cet univers, tu te mets à la, disons, entre guillemets, à la place des personnes qui arrivent. Parce que toi, tu es plutôt un psychothérapeute qui a pour outil de travail l'empathie. Mais pour quelqu'un qui y travaille, qui est professionnel dans cet établissement, qu'est-ce qui te frappe et qu'est-ce que tu aurais envie qui change dans ce genre d'institution ?
Alors, je reprends ta question.
Oui.
En essayant de me... Bon, j'ai beaucoup parlé de ce qui n'allait pas énormément les dernières fois.
Oui.
En fait, dire, pour répondre aussi, Sylvie, à ta question, finalement, à quoi que ça sert, finalement, d'être psy, j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup réfléchi. Alors, je pense qu'effectivement, ça sert à quelque chose, mais tout le problème, c'est... Quel champ théorique domine aujourd'hui ? Le champ théorique qui domine aujourd'hui en psychiatrie a fait voler en éclats tout ce qui aurait pu ou tout ce qui pourrait être les initiatives à la fois courageuses, héroïques, qu'ont eu lieu dans les années 60, 70, 80, et même un peu avant. Bon, je sais pas Toscaès, mais il n'y a pas que lui. Il faudrait distinguer ce qu'on appelle le soin institutionnel et la psychothérapie institutionnelle, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ce sont des petite nuance quand même. Mais enfin, disons que il y a quand même une idée majeure qui est quand même l'institution est toujours potentiellement quand même malade un peu, quoi. Et ce qu'il faudrait pouvoir intégrer, et cette intégration n'a plus lieu du tout, ça serait de poursuivre l'élan, l'initiative qui a été entamée il y a plusieurs années, il y a 20 ans, 30 ans, d'essayer de toujours s'atteler inlassablement à soigner l'institution. C'est fini, ça. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est, on va dire, la remédiation cognitive, les habiletés sociales, l'idée qu'en fait, bon, effectivement, il faut aller vite, et point de besoin d'avoir l'éclairage analytique, on peut tout à fait se passer de l'idée d'inconscient, l'empathie dont tu faisais, il faudrait encore définir ce que c'est que l'empathie, mais enfin, moi j'ai défini l'empathie à partir d'auteurs anglo-saxons, bon, Ferenczi, Winnicott, Klein, Balint, ce sont bon, des auteurs aujourd'hui un peu tombés dans l'oubli, enfin, tu vois, bon, je veux dire, l'empathie, ce serait une capacité... à sentir et ressentir, et surtout essayer de comprendre et élaborer ce qu'induit aussi le patient chez moi. Donc c'est tout à fait différent de ce que les FAF ou les SOSDEM aujourd'hui essaient de nous faire avaler quand ils parlent de nécessité d'introduire l'empathie.
Ben, concrètement, c'est ça, ce que je te posais comme question la dernière fois, c'est finalement, c'est quoi le plus, par exemple, par rapport à des groupes d'entraide, où les gens peuvent avoir de l'empathie, mais où il n'y a pas d'un côté celui qui représente être parfaitement normal, et de l'autre celui qui est soigné. C'est quoi le plus d'avoir un bagage théorique? Je pense que quand même, il y a quand même beaucoup de... Le fait de savoir même que tu as un inconscient, ouais, pourquoi pas, mais en réalité, on discutait de ça tout à l'heure avec Denis. Est-ce que savoir, c'est vraiment pouvoir? Enfin, c'est bien avancé une fois que tu sais que t'as été, que t'as subi quelque chose de la part de tes parents, par exemple, s'il n'y a pas de catharsis, tu vois. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est, ce qui peut en être de l'entraide, si tu veux. Mais enfin, je suis beaucoup plus intéressée par ce type de rapport parce que, ayant subi moi-même en tant que patiente l'espèce de hiérarchie, et pire que ça, quoi, mais qui est structurelle, c'est-à-dire que par définition tu arrives dans une institution avec quelqu'un qui est intronisé absolument officiellement. Lui, il sait, il a fait des études, il a mangé des bibliothèques et tout, il sait mieux que toi qui tu es quelque part, et puis il représente la santé mentale, alors que toi t'es qu'une pauvre chose qui te remet entre ses mains. Donc, qu'est-ce que c'est le plus par rapport au groupe d'entraide, par exemple, tu vois?
Alors, déjà, au niveau de l'institution, je réponds à la fois à ta question, Denis, je reviens un tout petit peu en arrière. Il faudrait que je dise quand même que toutes les institutions ne se valent pas, déjà. Il existe des institutions qui ont tenté, qui tentent de fonctionner de façon plus horizontale, autrement que ce que je raconte et ce que j'ai vécu. Notamment, mais c'est une institution que je ne connais pas, peut-être faudrait les inviter, je ne sais pas. C'est le centre Artaud à Reims, dont on m'a dit beaucoup de bien, un centre Artaud déjà, qui ont un fonctionnement, m'a-t-on dit, tout à fait différent de ces institutions épouvantables dont je parle. Il y en a eu autrefois, Sommerie à la Chênaie, etc. Il y a eu quelques tentatives, mais elles sont extrêmement minoritaires. Dans l'ensemble, la psychiatrie correspond tout à fait à ce que tu décris, Sylvie, et peut-être plus encore aujourd'hui qu'avant, et encore, ça faudrait vérifier, c'est-à-dire une verticalité, et puis des despotes. Alors, ça me paraît, pour répondre à ta question aussi sur qu'est-ce que c'est que le plus, il suffit pas simplement d'admettre ou d'intégrer, abstraitement, qu'on a un inconscient, ça tout le monde peut le faire. Il s'agit de mettre au travail, je persiste quand même, à penser qu'un travail, appelons-le analytique ou psychothérapeutique individuel, suffisamment long, sérieux, permet, si tu veux, déjà de faire quand même le deuil d'une certaine, toute puissance, et puis d'une certaine santé, quoi. Je pense à des auteurs comme Bion, qui a vécu donc anglo-saxon, ou comme Margaret Little et tant d'autres, qui ont pointé, par exemple, que en nous, et ça c'est pas rien, il y avait des parties folles, il y avait ce qu'on appelle des îlots psychotiques. C'est peut-être à partir de cela, et là il faudrait rentrer un petit peu plus dans la théorie, qu'on peut par exemple, rentrer en contact avec quelqu'un qui souffre. Je m'explique en quelques mots. Dans mon travail, par exemple, là je bosse avec, mettons, je reçois quelqu'un qui... patient dans un état de grande détresse. Moi, je pense que quand on est dans la détresse, la rationalité tend à voler en éclats un petit peu. Pour entrer en contact psychique, mais c'est-à-dire émotionnel, il faut bien que je sois capable d'aller chercher ce qu'il y a en moi aussi de plus régressif et peut-être même de plus désorganisé pour entrer en contact avec lui, tout en le tolérant. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une symétrie totale, sinon je m'effondre avec lui. Il s'agit d'être capable de comprendre, et c'est un travail qui ne peut s'acquérir qu'après un long travail personnel. Il faut que je sois capable, dans la relation, disons, duelle, psychothérapeutique, je parle dans une institution où les choses ne sont pas simples, il faut que je sois capable de négocier ce qui se passe en moi, comprendre ce qui se passe en moi, négocier par un bon mot. Je reprends un mot de Ulrich Meinhof, quoi. Les porcs dont tu parles, qui t'ont reçu, là, ce sont des gens qui, visiblement, n'ont pas fait ce, ce que j'appelle le deuil d'une toute-puissance. Ils sont dans une sorte de sentiment de... Ouais, c'est...
Disons que ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui sont pires que d'autres.
Il y en a qui sont pires que d'autres, bien sûr.
Mais c'est l'idée même de la situation, si tu préfères. C'est-à-dire que, par exemple, effectivement, l'idée des groupes d'entraide, où, par définition, les gens vont d'autant mieux comprendre les autres qu'ils sont... officiellement, on peut dire, dans la même situation, donc tu te retrouves pas dans cette position basse, si tu veux, qui est là structurellement. T'es dans une institution où la personne, elle en fait partie, alors que toi, t'arrives un peu... t'arrives dans un monde dont tu connais ni les coutumes, enfin, tu viens là avec un statut officiel de celui qui est malade, l'autre va dire, moi, je suis parfaitement... Enfin, l'idée, malgré tout, c'est quand même rare. Et puis bon, c'est à sens unique, je veux dire, tu viens pas pour soigner les gens qui sont dans l'institution, quand t'es officiellement patient. Alors que dans un groupe d'entraide, c'est l'idée même de, ben, moi aussi, j'ai vécu ça, j'ai vu par exemple les victimes de Paco, dont t'as peut-être pas entendu parler. Bon, c'est un type pendant au moins 10 ans, hein, ça devait remonter encore plus vieux, dans les milieux militants, il agressait des jeunes garçons, enfin son âge préféré, c'est dans les 14-15 ans, je crois qu'il avait peut-être agressé des plus jeunes. Il s'en prenait aussi bien aux mineurs sans papier qu'à des jeunes en fugue, qu'aussi à des... Il y avait un groupe justement de schizophrènes qui s'était constitué, qui faisait des trucs de cinéma et tout. Il était aller essayer de chasser là, il s'en prenait. C'était un type dans les 60-70 ans, c'est et qui était un vrai prédateur sexuel. Il s'appelle Paco. Et du coup, il y a eu une espèce, à un moment donné, plusieurs de ses victimes se sont constituées en groupe. Qui à la fois a décidé de le cafeter, quoi, hein, si tu veux. Donc il y a des textes qui sont parus sur internet, il y a même des brochures où on voyait sa photo pour que les gens soient au courant. Je vais montrer même à mes fils et tout. Si ce type dit je connais tes parents, surtout vous fuyez, je l'ai vu de mes yeux, enfin aussi essayer d'attaquer des jeunes du LAP, du lycée autogéré, et donc ils ont mis bien 10 ans avant de se décider. Mais le truc, c'est qu'ils se sont, après avoir au moins fait ça, tu vois, ils se sont constitués en groupe d'entraide pour se reconstruire après le traumatisme qu'avait été le contact avec ce prédateur. Et donc si tu veux, apparemment, bien alors on a pris, enfin ça leur a fait beaucoup de bien de se constituer de cette manière. Il n'y avait pas un coach comme dans les groupes style Alcoolique Anonyme où t'as quelqu'un qui distribue la parole, c'était absolument informel, c'était juste un truc de d'écoute comme ça. Donc par rapport à ce type de situation, enfin où il y a bien un traumatisme, il y a un désir de s'en sortir, qu'est-ce que c'est le plus dans une institution par rapport à un groupe absolument informel comme ça, quoi.
Alors là, ce sont des situations, on va dire, des points limites absolument, et très extrêmes, hein, très très extrêmes. Là, je veux dire, dans un cas pareil, mais je veux dire, il y a plusieurs recours. Effectivement, faut dénoncer ce type-là, enfin ce type. Il faut des, donc c'est presque des, c'est quelque chose de politique là, c'est une micro-politique. C'est une résistance qui doit être à tous les niveaux. Il faut l'empêcher effectivement de nuire. Mais je veux dire, ce sont des points extrêmes, des points limites que je peux pas généraliser à toutes les institutions. Tant dans les institutions aujourd'hui, il y a quelque chose, bon, qui me paraît extrêmement préoccupant, c'est l'élision du principe activateur de la politique, c'est-à-dire le droit de se diviser. Actuellement, dans les institutions, dans les réunions, il n'est plus possible de se diviser, il n'est plus possible de constituer une conflictualité, par exemple, théorique, pratique, sur, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tel ou tel patient qui va mal. Autrefois, il fut un temps où c'était possible, ça a été possible. Dans le lieu où je travaille, par exemple, il y avait ce qu'on appelait un club, avant. Il y avait un club... il y a peut-être une vingtaine d'années, les patients pouvaient se retourner, discuter, se retrouver, se discuter, fumer. C'était pas un système autogestionnaire, anarchique, d'entraide. Mais enfin, il y avait quelque chose de possible. Ça a été cassé dans les années 2000, je crois. Une chef de pôle a pris la direction de manière extrêmement violente. Vraiment, bon, ça s'est vu même. Bon, ce que je veux dire, c'est que là, que ce soit dans ton exemple ou dans ce qui est devenu... les pratiques managériales qui gèrent la psychiatrie, t'as l'impression que quelque chose s'est affaibli, s'est complètement effondré du côté de la capacité critique des soignants eux-mêmes. Dans ce que je pense du psychologue clinicien, par exemple, et pourquoi pas du psychiatre aussi, la prise de parole, elle est fondamentale. On avait évoqué, en discutant hors antenne, la question du transfert. Hein. Le transfert étant entendu comme, disons, la réactualisation dans une relation à deux, de conflits très anciens et inconscients, bien sûr.
L'idée, c'est, enfin, si j'avais bien compris, c'était que le patient, donc, projette sur, justement, enfin, moi j'ai l'impression que, justement, tu peux faire ça que parce que, dans l'institution, et de par le statut même du psy, il est dans une position de hiérarchique forte, quoi, si tu veux, et puis vraiment, il y a justement, c'est pas du tout comme dans un groupe un groupe d'entraide, comme pour les victimes de Paco, c'est justement parce que il représente une forme d'autorité qui serait l'équivalent, finalement, de l'autorité qu'un adulte a sur un enfant, et que c'est pour ça que le patient va projeter sur le soignant
pas forcément quelque chose pas seulement, et alors électivement sur le soignant, mais pas forcément sur le soignant. Je pense que l'amour est régi par des phénomènes transférentiels, la haine aussi, mais d'une manière générale, les phénomènes de secte, les phénomènes de leader, que ce soit dans le milieu militant ou ailleurs, voilà, dans le champ social, le transfert est toujours là, plus ou moins diffus, à fonctionner. Le truc, c'est dans une relation soignant-soigné, moi j'espère et je pense que là, la théorie analytique devrait pouvoir nous pousser à ne pas se laisser idéaliser, c'est-à-dire je m'efforce autant que possible de ne pas me laisser idéaliser. Il y a ce qu'on appelle des transferts, un auteur a parlé de transfert idéalisant ou de transfert narcissique. Je veux dire, si c'est au psy de ne pas se laisser idéaliser. Alors tout le monde n'est pas en capacité de renoncer à ce bénéfice narcissique, mais alors ça, c'est une catastrophe d'un point de vue éthique. Ça veut dire que le psy ne se plie pas à la règle aussi, hein, consiste à fonctionner sur un autre champ que celui de l'idéalisation. Elle est catastrophique, l'idéalisation. Car pour reprendre un peu ce que j'essaie de dire, parfois un peu maladroitement, dans une relation où le transfert, disons, idéalisant, est suffisamment réduit pour qu'une relation de confiance s'établisse, bah, tu vois, tu rencontrerais ou tu aurais rencontré dans le moment où tu étais extrêmement vulnérable, traumatisé, quelqu'un qui t'aurait écouté, mais t'aurais senti qu'il n'y avait pas cette espèce d'effet d'altitude, et puis suffisamment de délicatesse, peut-être que... Non ?
Ce que je cherche à dire, c'est que c'est la structure même qui induit forcément ça, si tu veux. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai téléphoné, donc à un moment donné, j'avais téléphoné à SOS Viol, et j'ai eu au bout du fil quelqu'un qui n'avait aucun statut. Il y a eu une écoute, une empathie, mais rien ne permettait
de distinguer.
C'est-à-dire que, si tu veux, ce que je te dis aussi, les groupes d'entraide ne favorisent absolument pas un phénomène de transfert. En revanche, une institution, quelqu'un qui a un statut et qui de par son statut représente la norme et même la société, on va dire, de par le fait qu'il travaille qu'il a été adoubé par cette institution, que t'es dans un cadre comme ça où indéniablement lui, c'est lui qui est normal, c'est lui qui sait, enfin qui a un bagage culturel que toi t'as pas, c'est tout de suite, c'est forcément que ça favorise un transfert. Je vois pas comment il en serait autrement. Je veux dire, c'est structurel, alors que structurellement, un groupe d'entraide ne peut pas, enfin, évidemment, tu peux avoir un sentiment amoureux, mais l'idée du transfert, c'est quand même l'idée de, justement, enfin, moi j'ai vu comme ça, je voyais comme ça, que tu te retrouves dans la position de l'enfant envers l'adulte, qui est une position par nature inégalitaire. On va arrêter, un enfant, il n'est pas à égalité avec un adulte. Eh bien, c'est pour ça que tu fais un transfert, parce que en tant que patient dans une institution avec quelqu'un qui a des diplômes, un savoir, un statut que toi t'as pas, tu vas te retrouver comme l'enfant face à l'adulte.
Oui, mais
alors que ce n'est pas le cas avec quelqu'un que t'appelles au téléphone ou dans un groupe d'entraide comme les victimes de Paco.
Alors, il peut y avoir, par ailleurs, quand t'appelles quelqu'un au téléphone, de mauvaises surprises, hein, en général, aussi. Hein.
C'est pas cette situation d'être dans une institution avec quelqu'un qui a un statut où là, franchement, toutes les conditions sont réunies pour que t'aies l'impression d'une impression d'inégalité.
Alors là, je suis catégorique, je pense que c'est au puisqu'on parle des psys, de psychiatres, c'est aux psys de ne pas tomber là-dedans. C'est-à-dire que il est possible, déjà, faudrait voir quelle institution et quelle est la place. Je parlais de chaîne des tyrannos à un moment donné. Toutes les conditions de possibilité sont réunies. Si toi-même, t'es, enfin, si une personne est avide, je parlais de la chaîne de tyrans, tu sais, tu arrives dans une institution, t'es psy. Je veux dire, si toi, tu kiffes le pouvoir. Enfin, si toi, c'est un, tu as le bénéfice, tu vois, absolument. Pour moi, pathétique, mais enfin, tu as le bénéfice d'être là, mis à cette place que tu décris très bien, tu sais, de majesté. Bon, bah, effectivement, tu vas exercer une espèce de fond. Tu vas recréer un potentat avec les patients. Mais c'est au psy de ce. Et là, c'est peut-être l'indication d'une tâche, c'est peut-être un horizon, on va dire, révolutionnaire. C'est-à-dire, mais on me dit, quand je vais dire ça, j'ai l'impression que je suis dans une sorte de conte. Mais non, en fait, c'est au psy de se défaire de ça, de cette. Parce que du transfert à l'emprise, on est bien d'accord qu'il n'y a qu'un pas franchi dans les fonctionnements sectaires ou dans les groupes, Paco et plein d'autres choses, dans des couples. Mais je suis désolé, moi par exemple dans le taf où j'étais, dans tous les boulots que j'ai occupés, ça s'est toujours mal passé parce que, et il n'y avait rien d'héroïque, hein, c'était que je restais fidèle à peu près à ce qu'est ma sensibilité politique. C'est que je crachais à la gueule du fonctionnement hiérarchique parce que le chef de service... Était un autocrate, quoi, qui fonctionnait par des mesures qui me paraissaient injustifiables, de maltraitance sur des patients, de maltraitance sur des infirmiers, de maltraitance sur d'autres médecins, enfin, je veux dire, et que c'était juste un fonctionnement que j'hésiterais pas à qualifier de pervers. Moins spectaculaire que ce que tu décris avec Paco, parce que mon ancien chef de service était beaucoup plus malin. Hein, mais
Paco se présentait pas comme un thérapeute quand même, faut pas exagérer.
Ouais. Mais enfin, je veux dire, mon erreur, ma folie, hein, c'est comme ça que on te traite vite de psychotique dans ces cas-là, c'était de me mettre en colère. Mais effectivement, quand t'es surmené, harassé, que tu craques, tu te mets en colère et dans un système qui est fou, bon, tu disjonctes. Moi, ça a été par exemple après un suicide de me dire, mais est-ce qu'il faudrait pas. Tu vois, débouler à plusieurs dans le bureau du chef de pôle ou de la chef de pôle, exiger des explications. Bon, j'ai bien vu que l'immense masse de mes collègues, bon, pas très politisés, il faut dire aussi, hein, rechignaient, quoi, tu vois. Donc, mais cette position-là que tu décris, moi, dans le lien avec les patients, je l'ai toujours refusée. Et je crois pas une seule fois, honnêtement, hein, faudrait leur demander, je crois pas, si tu veux, avoir été perçu, ou en tout cas pas longtemps, politiquement, comme étant un mec imbu de son espèce de situation là. Je veux dire, il y a quelques auteurs, par exemple, qui ont à cœur de montrer que ce vertige-là est imaginaire. Tu vois, la position du sachant. Et que c'est pas comme ça que tu soignes quelqu'un, quoi. Enfin, que tu l'aides. Le mot soigner est un petit peu un petit peu trop médical.
Pardon. Alors, oui, tu parlais tout à l'heure, donc, qu'il y avait les... une psychiatrie conventionnelle, despotique, et une autre qui serait justement à l'écoute, on peut dire. Mais ce que je constate,
c'est minoritaire.
Voilà, c'est ça que j'ai
minoritaire, dit. Moléculaire.
C'est ça, c'est que la majorité, c'est quand même la despotique.
C'est la violence, oui, ouais. Bien sûr.
Et pour en témoigner, d'ailleurs, je peux vous passer l'extrait d'un film qui s'appelle intitulé État limite. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est un psychiatre. Là c'est pareil, c'est dans un hôpital général qui est donc de liaison, comme on dit, c'est-à-dire un psychiatre mobile dans un hôpital général, mais qui a un quartier pour les polytraumatisés. Voilà. Et là, on va... Donc, c'est à Beaujon, l'hôpital public Beaujon. Et là, on va écouter un extrait où ils sont obligés d'attacher un gars sur un lit et puis de lui faire une piqûre.
Alors, juge, je m'excuse, mais mes collègues urgentistes commencent à s'impatienter un petit peu et ils veulent vous attacher.
mais sans mal. Il n'y a personne qui m'attache, il n'y a personne qui ne fait rien.
Voilà, juste, moi, je vous dis juste, j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure que...
Non, je suis libre de mon corps, on n'a pas à m'attacher ou me faire quoi que ce soit. Je fais de mal à personne, si ce n'est qu'à moi, ça me regarde.
D'accord.
Non, il n'en est pas question.
D'accord. Hop. Alors, le type, il est intoxiqué. Il nous dit, j'ai le droit de me faire du mal si je veux, ça vous regarde pas. Il a fait hier un grave geste qui aurait pu conduire à se tuer. Il veut pas qu'on en discute, il est intoxiqué encore là. On a essayé de jouer les choses avec la parole. Je pense qu'on va pas y arriver parce qu'il est très nerveux. Donc à mon avis, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Écoutez, feu vert pour Monsieur Bob. Contention, sédation. Je vais vous prescrire une injection avec ce qu'il faut.
La contention, sédation. Donc là, on est même un psychiatre qui peut pratiquer avec beaucoup d'écoute, parce que c'est le cas pour le psychiatre qu'on voit dans le film, qui est un vrai professionnel, mais qui base son travail sur l'écoute. Mais là, le fait qu'il soit, entre guillemets, obligé de sédater et d'attacher le patient qui a bien manifesté son refus d'être attaché, oui, et d'être sédaté, eh bien, qu'est-ce qui se passe ?
Ouais, alors tout est dit, et c'est la raison pour laquelle, alors j'ai utilisé un auteur qui gêne peut-être encore plus, je pense, aujourd'hui, que peut-être encore plus que Gilles Deleuze, hein, qui quand même est intégré et utilisé quand même maintenant, à nouveau, plus, c'est Michel Foucault. Je pense que son approche, qui embarrasse beaucoup de psy encore, hein, elle est essentielle, et lui et peut-être ses épigones, mais je veux dire, déconstruire les rapports de pouvoir, questionner les fondements d'une pratique, on va dire, autoritaire, c'est quelque chose qu'il faut maintenir toujours et tout le temps. Dans le champ psychiatrique, notamment, tout le temps. J'ai quelqu'un qui dit non, pourquoi ? Poser la question, qu'est-ce qui te fonde à agir comme ça ? Ça ne veut pas dire qu'on y répond, hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ou nécessaire ou pas, enfin, je ne sais pas. La question, c'est toujours pouvoir poser, je réponds de manière transversale aux questions que vous m'avez posées tout à l'heure, toujours pouvoir interroger une pratique de pouvoir. L'interroger, et puis... en 73, Foucault explique à Louvain que, en fait, notre rapport à la folie est historiquement constitué. Et dès lors qu'il est historiquement constitué, il peut être politiquement détruit. Donc, réinterroger tout.
Pourquoi
ça...
Pourquoi le rapport entre les deux,
Je veux dire, alors, moi, je dirais qu'il s'agit d'infliger des blessures narcissiques à toutes les pratiques de pouvoir, tu vois. Et c'est de montrer que ce sont des... le rapport à la... Donc, tu sais, il introduit une discontinuité à partir du XVIIe siècle. Hein. Il y a un certain moment où les fous ne peuvent plus déambuler dans la cité.
Voilà.
Il y a un moment où quelque chose comme un regard médical se constitue. Bon, voilà. Et on va dire que ce que je vois, ce qu'on voit dans une chambre d'isolement, ce qu'on voit dans... C'est quand même un regard... Un regard qui prédomine, qui compte plus que les autres. Le regard que le fou porte sur toi n'est pas de même essence que celui que le soignant, que le médecin porte sur, on va dire, le fou, l'insensé. Et je pense que ce qu'il faut, ce qu'il s'agit de faire, que ce soit dans l'exemple que tu donnes, et d'une manière générale, dans une réunion, je reviens vraiment de façon obstinée à la question des réunions, où ce sont les moments où tu dois pouvoir questionner tout ça, redonner toujours du jeu dans le champ de nos pratiques ou de la mobilité à ce qui nous paraît comme des évidences. Par exemple, évidence, agitation, sédation, piqûre. Mais c'est aussi de toute autre chose. Ça peut être agitation, sédation, électrochoc, par exemple. Enfin, sismothérapie, pardon. Tu vois, ça peut être, par exemple, attacher quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je pense par exemple à des femmes qu'on attache, mais qu'on désappe aussi, qui se sentent regardées, et qui ont pu me dire, mais bon, est-ce que vous savez ce que c'est ? L'effraction invraisemblable que ça représente. Aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, qui fait un burn-out, arrive dans un état souvent, pas forcément à chaque fois, mais d'agitation psychomotrice, qui peut donner l'impression que la personne, par exemple, souffre d'un... un désordre psychotique, tu vois, agitation, incohérence, tout ce que tu veux. Non, c'est juste, elle dort plus éventuellement, elle a fumé. Bon. Putain, prends ton temps avant de poser un diagnostic, quoi, tu vois. Nijinsky, par exemple, il est vu par Bleuler, en un quart d'heure, un diagnostic de schizophrénie est posé, quoi. Un quart d'heure. Bon, on n'a pas beaucoup bougé. je l'évoquais la toute première fois, ce que je vois, moi, c'est des diagnostics, ce que j'ai vu, moi, et ce qui me paraît d'une violence absolument invraisemblable, c'est la vitesse avec laquelle on pose un diagnostic. C'est très rapide.
Moi, dans l'extrait que tu as passé, Denis, le truc qui me choque le plus...
Je rappelle que c'est un film de Nicolas Peduzzi. Voilà,
c'est un documentaire de...
Oui, sur un psychiatre.
Et ce qui m'a choqué, et en fait, toi, je t'ai prêté un livre de Valérie Valère, Le pavillon des enfants fous, sur l'histoire d'une très jeune fille. Enfin, elle écrit elle-même réellement le livre, mais elle avait 13 ans, je crois, quand elle a été enfermée pour anorexie. Donc, et en fait, ce livre, on en avait parlé dans l'émission, il est très dérangeant. Tout comme le livre de Patrick Declercq, Les naufragés, est très dérangeant parce que ça nous questionne de façon quasi métaphysique. Ce qu'elle dit, c'est elle dit mais j'ai pas demandé à naître. De quel droit vous décidez que je dois vivre? Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement déstabilisant parce que en effet, si la personne elle est dangereuse pour les autres, que tu dises ah ben faut s'en protéger, mais tout en essayant d'être le moins, malgré tout le moins violent possible envers. Mais si c'est quelqu'un qui est violent envers lui-même et qui ne demande pas d'aide, pourquoi? Enfin, comme c'est le cas de Valérie Valère, elle arrête de manger, c'est vrai, elle se met carrément en danger de mort. D'ailleurs, elle a fini par mourir. Elle devait avoir une vingtaine d'années, mais le fait est que elle n'arrête pas de dire que elle demande rien. On l'a mise là de force, elle demande pas à ce qu'on la fasse manger, même si elle doit mourir de faim. Elle dit c'est mon corps, c'est mon problème. C'est l'histoire du droit au suicide. Je crois qu'il y a même une loi en France en particulier où le suicide est interdit. Tu vois. Donc si t'as essayé de te suicider, moi je veux dire après une tentative de suicide, je pensais que j'allais sortir quand je voudrais, mais quand je voulais sortir, vous êtes bien d'accord, vous avez essayé de vous suicider. Oui, d'accord, mais enfin maintenant. Oui, mais on n'est pas sûr. Mais je disais, mais je vous demande rien, quoi. Je veux dire, de ce point de vue-là, c'est à moi de surmonter ça, ce que j'avais fait, alors avec aucune espèce d'aide. Et d'ailleurs, j'étais avec des anorexiques que visiblement on m'avait mise là. Je trouvais que c'était, ce qui était pas génial, c'est que dans le cas de Valérie Valère, on l'isole, et y compris avec des pratiques d'isolation sensorielle. Si elle veut un livre ou enfin, dans un endroit tout blanc où il y a rien, elle parle à personne. Si elle veut un livre ou parler à quelqu'un, il faut qu'elle mange un truc.
Non, mais ça, c'est abominable. Non, on est tout à fait d'accord. C'est abominable.
Mais bien sûr. Je veux dire, c'est que d'une manière plus générale, il y a aussi une autre façon. C'est que, par exemple, dans l'hôpital où moi j'étais, les anorexiques, elle dit que j'ai une copine qui a été dans le pavillon des enfants fous aussi étant ado, et elle disait on n'a aucun contact les unes avec les autres. Par contre, ils n'ont pas du tout de demande, même d'entre elles. Et moi, ce que j'ai vu, elles étaient peut-être 7 ou 8 jeunes filles anorexiques, et puis un jeune homme, et ils se parlaient pas, mais on les obligeait dans l'espoir qu'ils allaient avoir des relations, etc. On s'adressait pas la parole. Moi, je pleurais comme un veau et tout, je me disais, ils m'obligeaient à aller manger avec tout le monde. Moi, ça me plaisait pas du tout, j'avais pas envie de montrer ma face de carême à tout le monde. Tu vois, je veux dire, mais ils m'obligeaient. Et le soir, ils nous obligeaient à regarder un film à la télé, que eux, ils choisissaient. Tu vois, parce qu'ils espéraient que du coup, ça allait favoriser des relations et tout. Mais on demande, est-ce que c'est forcément un cadeau déjà, les relations? En tout cas, elles n'en avaient aucune envie.
Est-ce que ça se commande aussi?
Oui, voilà.
Ça se décrète pas d'en haut. Mais on revient à la question, c'est qui décrète quoi? C'est-à-dire, pour sortir d'un bilan absolument suicidaire et noir d'une psychiatrie comme ça, coercitive, je peux concevoir, imaginer, esquisser une psychiatrie, le mot est peut-être impropre, un lieu d'accueil où, si tu veux, la question de la demande serait prise en compte autrement, c'est-à-dire, effectivement, par exemple, l'intimité serait respectée, je pense que c'est important, t'en aurais eu besoin, tant d'autres en ont besoin, et les relations ne seraient pas imposées. Je me demande bien ce qu'on te demandait de voir, mais bon, ce que j'ai vu moi, et ce que je vois aujourd'hui, et ce que tous les potes que je connais en psychiatrie m'ont raconté, c'est que par exemple pendant le Covid, c'était à se taper la tête contre les murs, quoi. Dans l'hosto où j'étais, si tu veux, t'avais CNews qui tournait à la télé, quoi. BFM CNews qui tournait à la télé. Non, mais je veux dire, j'ai pas vu un seul hosto en banlieue ou à Paris, où si tu veux, t'as pas cette espèce de télé là, tu vois. L'armée des douze singes à côté, c'est sympa, quoi. Tu vois, espèce de télé, quoi, avec des programmes sinistres. Alors, effectivement, Deleuze a bien raison de dire que le délire est immédiatement investissement d'un choc social historique. Comment il pourrait en être autrement? Effectivement, certains patients, pas forcément schizophrènes, délirent le champ social, mais tout est fait pour, quoi. Donc, si effectivement le seul contact avec l'extérieur, c'est une télévision branchée, allumée, et c'est ça qu'on appelle le soin, avec des murs ternes et tristes et des donneurs de leçons, tu vois. Je ne sais pas si j'en avais parlé, mais une patiente à moi, j'ai vu, bon, qui fait une tentative de suicide, qui a des gosses, on la culpabilise. On lui dit, vous n'avez pas honte pour vos gosses et tout. Bon, si c'est ça le soin, les structures conventuelles, c'est autre chose. Alors maintenant, moi, sur cette question qui est extrêmement compliquée à. Et je ne pourrais pas, moi, avoir d'avis tranché. C'est-à-dire, la question, genre, je veux me suicider, laissez-moi me suicider. Ouais, moi, c'est une question qui me mettrait dans un embarras moral, affectif, émotionnel, extrêmement. Je veux dire, toute la question, c'est est-ce que cette personne, elle a été hospitalisée de force? Est-ce qu'elle est venue demander de l'aide? Est-ce que son désir de mourir survient pendant l'hospitalisation? Est-ce que est-ce que ça a été potentialisé par l'hospitalisation? Non, mais c'est des questions. Mais mon Dieu, la question du droit de mourir, moi, je serais bien incapable d'y répondre comme ça. Mais je veux dire, en tout cas, encore une fois, là, c'est un autre point limite, Valérie Valère. Par exemple, je voudrais parler de quelqu'un qui me touche beaucoup, qui est Sarah Kane. Bon, Sarah Kane, qui a écrit donc un texte que j'encourage, c'est son dernier texte, je crois, que j'encourage beaucoup à lire, qui s'appelle 4h48, Psychose. Une jeune femme, une trentaine d'années. Donc, pour moi, révolutionne, bouleverse le théâtre anglais dans les années 80, je crois qu'elle meurt en 80, dans les années 90. Bon, elle écrit un texte, je crois qu'elle l'écrit, elle le finalise pendant, où elle parle de son hospitalisation et des conditions d'hospitalisation et de l'incapacité, en fait, du milieu soignant à lui venir en aide. Bon, elle termine, ça se termine, 4h48 psychose, elle se pend dans sa chambre, quoi. J'aurais voulu qu'il en soit autrement. La question que je me pose, c'est pour tant de patients qui se tuent, est-ce qu'il aurait été possible, non pas de les contraindre à vivre, hein, ça peut être absolument terrible de vivre, mais disons, à leur redonner le désir de vivre. C'est une gageure, mais. Car enfin, la question de la psychothérapie, la question autour de laquelle je n'arrive pas à répondre, autour de laquelle on tourne, c'est qu'est-ce que ça peut apporter, une relation? Peut-être que, à force de parler, de construire, de co-construire une pensée, parce que c'est une co-construction, je veux dire, c'est quelque chose qui se fait à deux, on peut imaginer, on peut espérer que la dimension funeste du passage à l'acte est conjuré du côté du patient. C'est-à-dire que le passage à l'acte, qui peut être conçu comme une sorte de court-circuit de la pensée, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se fout en l'air, par exemple. Moi, la question du suicide, pour moi, elle est centrale. C'est-à-dire, c'est pas la question de forcer quelqu'un à vivre, hein. La théologie n'est pas en reste. Je crois que les suicidés étaient damnés. Il s'agit pas de ça, hein. Il s'agit d'essayer de tout faire, par exemple, pour moi, pour que cette dimension de la mise en danger, de l'ordalie, soit différé un peu, quoi. C'est que le sentiment désir de vivre soit maintenu, c'est pas simple.
Lors d'Ali, c'est-à-dire je m'en remets à la volonté du...
On a coutume de divinité, les pratiques adolescentes comme des sortes de rites, on parlait de...
C'était au Moyen-Âge.
D'Ali, de mise en danger extrême. Mais quand ça se prolonge au-delà de l'adolescence...
C'était un jugement, lors d'Ali.
Oui, à l'origine, c'est religieux.
Oui, c'était un jugement.
Je vais... Voilà, ce qui me paraît... Cette question, je parle de Sarah Kane, un tel processus créateur aussi prodigieux, je pense à Virginia Woolf, bon, on a, quelle souffrance intense et terrible, quoi, pesait, quoi, elle qui tenait un processus prodigieux, que ce soit Sarah Kane ou que ce soit Woolf ou tant d'autres. Et voilà, le soin a échoué.
Voilà, échec thérapeutique.
Échec thérapeutique. Ouais. Alors peut-être que c'était inévitable, peut-être que.
Mais est-ce que vous avez une. Parce que moi, la question, si c'est du volontariat. Parce que en effet, ça m'a marqué, là, dans l'extrait que tu as passé. Il veut pas, quoi. Non, ah oui. dans Valérie Valère, elle dit foutez-moi la paix. Je veux dire, d'ailleurs, on sent bien dans Valérie Valère que c'est pas un passage de l'adolescence ou quoi. Il y a quelque chose d'évidemment profond. Je parlais de Patrick Declercq. Donc Patrick Declercq était un psy, médecin spécialisé, de Médecins du Monde, spécialisé dans les, ce qu'on appelle vraiment les clochards, pas des SDF pour des raisons sociales, mais des gens qui sont en profonde désocialisation et qui arrivent à l'hôpital, ils veulent pas, ils sont dans des états physiques incroyables. Il y en a qui ont des asticots sur la chair, il y en a qui ont des blessures mais pas croyables, ils ne veulent pas qu'on les soigne. Et lui, quelque part, il explique dans le bouquin à quel point c'est quelque chose qui est déconcertant, c'est même pas le mot, parce que c'est une profonde altérité. Et le truc de Valérie Valère, quand on en avait parlé, c'est ça. C'est quelqu'un qu'on peut pas comprendre. Et on essaye de plaquer sur elle, je pense à mon frère aussi schizophrène, je ne comprends pas. Il y a des gens qui croient que rien de ce qui est humain ne peut leur être étranger, donc ils projettent, en parlant de projection, sur quelqu'un qui a un problème comme ça. Ah bah moi, j'aurais. Ma mère me dit, ah bah ton frère, il faudrait un bain de bulles. Oh, qu'est-ce que ça peut soulager les bains de bulles? Enfin, moi, je veux dire, c'est-à-dire que tu t'imagines, toi, de quoi t'aurais besoin. J'aurais besoin d'avoir des copains autour de moi. J'aurais besoin de. Je sais pas, là, par exemple, Valérie Valère veut pas manger. Alors elle dit, en plus, même on m'aurait amené des trucs appétissants, mais on lui a amené la bouffe de l'hôpital. Ah, tu vois, je veux dire, partir du marché. Mais elle disait, mais il y a un truc qui leur échappe. Il y a des gens qui croient que les anorexiques sont influencés par les mannequins qui sont trop minces dans les magazines. C'est parce qu'ils peuvent tellement pas envisager cette altérité, si tu veux. Mais cette altérité, elle te conduit à un sentiment effectivement d'impuissance que tu devrais t'interroger sur ce besoin de sauver des gens qui ne demandent pas à être sauvés. Enfin, tu vois, c'est ce que dit Declercq dans son livre. Et Valérie Valère, carrément, elle, de la bouche du cheval, si j'ose dire, elle dit, mais moi, j'ai pas demandé à naître, je demande pas à vivre. J'ai, à un moment donné, pas dans le livre, puisque ça s'arrête avant sa fin, on peut dire, elle a écrit d'autres livres ensuite, elle a même été actrice, etc., un peu. Elle a fait aussi du cirque, etc. Mais à un moment donné, dans une biographie que j'ai lue, sur elle. Elle, d'ailleurs, juste pour la petite histoire, à la fin, sa mère, qui est absolument haïssable, hein, elle dit, oh, je suis soulagée qu'elle soit morte parce que c'était saoulant, quoi. Enfin, comment elle était, quoi. Tu vois, genre. Ouais. Donc, bref, en tout cas, elle dit, moi, j'ai pas demandé à naître, je demande pas à vivre. Et à un moment donné, elle rencontre on voit ça dans sa biographie, elle a rencontré un jeune homme avec qui elle a eu aucune relation sexuelle, ça avait vraiment pas l'air d'être son truc, mais avec qui elle avait une espèce de connexion, et parce que il était pas anorexique, mais il y avait quelque chose en lui dans quoi elle se reconnaissait, et il avait absolument pas une attitude justement pour essayer de la sauver. Et très bizarrement, c'est ce qui faisait qu'elle pouvait se détendre. Parce que, en réalité, tout ce désir que les gens avaient de la sauver était quelque chose qui empirait les choses, quoi.
Oui, c'est ça, le désir. Et c'est pour ça qu'un travail personnel approfondi est nécessaire. Malheureusement, ça ne résout pas tout. Mais ce qui meut le désir de guérir n'est jamais pur, puisqu'on voit des violences, des phénomènes d'emprise, par exemple la rage, on va dire contre-transférentielle, c'est du côté du soignant, qui peut nous saisir, lorsque opiniâtrement, obstinément, le patient, la patiente refuse de guérir. Hein? La violence que peut générer quelqu'un qui résiste. Là, il faudrait questionner certaines notions que Françoise Sironi, je trouve, a bien pointées quand elle appelle ça la maltraitance théorique.
Qui est-ce ?
Françoise Sironi, c'est une psychologue. J'en ai parlé la dernière fois. Il y a un podcast qui est génial qui s'appelle Au procès des folles, que j'encourage tout le monde à écouter, où elle parle de femmes victimes de violences diverses, sexuelles, de violences conjugales, qui arrivent devant des psychologues, expertes, et qui sont passées au crible de questions absolument non seulement intrusive, mais enfin épouvantable. Et en fait, leur parole est délégitimée, avec une, l'appui, le secours d'une théorie, c'est pour ça qu'elle parle de maltraitance théorique, d'une théorie qui vient là, à point nommé, pour délégitimer encore plus, par exemple, l'immaturité. Je sais pas, l'immaturité affective, l'arriération, la pire étant le masochisme, tu vois. Une femme agressée rencontre un prédateur, oui, mais enfin, ouais. Qu'est-ce qu'elle rejoue, tu vois. Toutes ces conneries, toutes ces attaques qui sont absolument épouvantables pour quelqu'un qui souffre. Donc, c'est ce qu'il faudrait éviter à chaque fois. Pour revenir, je veux dire par là, cette femme, ton frère, je veux dire, bon, la personne va pas bien, mais encore une fois, on peut utiliser la théorie, on peut utiliser cette position dont tu parles autrement que d'une manière non seulement dogmatique, mais effectivement autoritaire, coercitive. Il est possible d'entrer, je pense, en contact, on va dire, psychiquement parlant, émotionnellement parlant, avec quelqu'un qui est en détresse. Après, on avance et on voit qu'est-ce qu'on fait. Mais encore une fois, dans un dispositif qui est celui d'une institution telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, au pluriel, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, il est bien difficile de prendre son temps, puisque tu es sans arrêt bombardé d'injonctions qui viennent d'en haut. Combien de fois, bon, on me disait plus de prise en charge. Comment tu veux faire plus de prise en charge? Bon, à la fin,
qu'est-ce
on me demandait.
Par, là
bah, par exemple, je te dis, je parlais des actes. Tu vois. Moi, par exemple, au début, j'avais des prises en charge qui duraient une heure. On m'a demandé de réduire. Bon, je pense que c'était des pressions pour que je me casse. Hein. Mais bon, on me disait, bon, tu comprends, voilà, il faut en faire plus. Il y a une file d'attente qui est bon. Okay. Et à la fin, on me demandait de faire des prises en charge de 10 minutes. J'ai toujours refusé. Je demandais à mes collègues de quand même de résister. Bon, ils n'ont jamais résisté, quoi. Finalement, donc quand tu bosses, c'est là où il faut résister à ça. Je veux dire, les patients, ils voient, hein, ils perçoivent très très bien. Si délirant qu'ils soient, ils perçoivent très très bien ce qui se passe dans une institution. Ils le perçoivent sur un mode délirant ou pas, mais prenons les schizophrènes. Ils sentent très très bien ce qui se passe. Le malaise institutionnel. Je veux dire, donc, ils vont vite voir où tu te situes quand même. Ils vont le sentir, hein, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir leur pote, etc. Mais, je veux dire, il faut résister, je pense. Il faut refuser cette position que tu décrivais tout à l'heure, cette position où il y a un statut comme ça, supérieur. Il faut le refuser. Et point besoin forcément d'être anarchiste pour ça. Je veux dire, tu refuses, hein, tu vois, au nom de ce qui t'engage avec les gens dont tu dois t'occuper. Ça suppose, encore une fois, que tu fasses le deuil d'une certaine santé psychique parfaite qui ferait de toi un individu différent d'eux, tu vois.
Pour avoir un sentiment comme ça, avec un soignant, enfin quelqu'un qui est officiellement dans une institution, qui a un statut et tout, je verrais qu'une solution, ce serait que le soignant se confie à son tour sur ses problèmes mentaux à son patient, mais ça n'arrivera pas.
Alors,
ça arrive dans les groupes d'entraide par définition, mais par définition le soignant il va pas dire ah bah là je te comprends bien, moi aussi des fois j'ai envie de me foutre en l'air, enfin tu vois ce que je veux dire.
Alors attends Sylvie, ça ce que tu pointes c'est très intéressant parce que Ferenczi à un certain moment élabore, j'en ai parlé la dernière fois, un modèle, bon, c'est l'inventivité permanente, Ferenczi. Il élabore des trucs, puis après il les laisse parce qu'il s'aperçoit que ça ne fonctionne pas ou que c'est dangereux. Il a élaboré à un certain moment ce qu'il appelle l'analyse mutuelle, où effectivement le patient et thérapeute sont finalement indistincts, l'un racontant ses rêves à l'autre, etc. Je pense, il y renonce, et il renonce pour plein de raisons, mais je pense que c'est dangereux. C'est dangereux ce que tu décris. Entre potes, pas de problème, hein, entre copains, mais dans une position où, justement, tu te désorganises, et quand tu te désorganises, tu veux, la question des limites internes, externes, elle est au premier plan. Ça, tu ne sais plus bien. Voilà.
Mais c'est ça qui est bon.
Oui, mais c'est plus
c'est
gros
ça
de
qui est bon
parole,
et c'est ça qui est angoissant. Attends, c'est ça qui est bon et c'est ça qui est angoissant. Un psy, enfin, quelqu'un, si tu veux, qui va trop du côté de l'indistinction, où les limites s'interpénètrent, ça peut être extrêmement angoissant. Je pense que ça présente des risques cliniques. Majeur, de confusion entre soi et l'autre. Et je pense qu'il est important de restaurer certaines limites, parce que sinon c'est aussi la dissolution.
Est-ce que c'est la dissolution quand deux personnes... Pourquoi est-ce que, parce que c'est un psy, il serait en danger de se confier comme,
non, c'est
le,
pas
comme
tellement
la personne qui est en face
c'est pas le psy qui en, non, c'est pas le psy qui est en danger, c'est le patient, tu vois.
Mais pourquoi?
Alors, il est 10h28, ça serait compliqué. je veux bien en reparler une autre fois, mais ça me demanderait.
Pensais aussi ce contre quoi il faut lutter, c'est que une tendance dans la psychothérapie en général, c'est d'essentialiser la maladie du patient, c'est-à-dire de faire que le patient est ontologiquement schizophrène, ontologiquement suicidaire, ontologiquement dépressif. Et que ça, ça peut être dû à des événements qui, il est bien dans sa vie, puis à un moment de sa vie, il se passe quelque chose qui fait que il change.
Oui, je crois qu'il y a un devenir psychotique potentiel chez chacun d'entre nous. Je ne crois pas du tout que il y a les bien portants et puis les autres. Oui. Il y a toujours de fortes conditions qui précipitent ce qu'on appellerait une décompensation. Mais enfin, en tout cas. Au diable à l'essentialisation, bien entendu, jamais. Mais cette question des limites, on pourrait y revenir une autre fois. Oui. Elle est essentielle quand même, elle est essentielle, elle est cruciale.
Je ne suis pas convaincue.
Je n'ai pas convaincue, mais si tu veux, on en reparlera. On en reparlera. Dans le lien thérapeutique, j'entends, bien sûr.
Oui, c'est de ça que je parlais. Parce que moi, c'est plutôt que je défends l'idée des groupes d'entraide par rapport à l'idée de la hiérarchie soignant parfaitement normale et puis soignée.
Mais tu constates, je la conteste, cette hiérarchie. Je n'oppose pas, je pense que tout ça s'ajoute, mais je n'oppose pas, un modèle vertical et puis un modèle horizontal qui serait lié à des groupes d'entraide.
Je sais.
Mais on est révolutionnaires tous les deux et anarchistes tous les deux.
Non, mais tu peux me convaincre.
Mais dans la question du soin, quand quelqu'un va mal, et quand il. Je parle d'angoisse paroxystique, tu vois, je veux dire, il y a quelque chose de l'abolition des limites, et par exemple au niveau des perceptions. Le sentiment que tout d'un coup moi et l'autre sont indistincts, mais ça peut engendrer des angoisses qui sont même impensables. Le lien avec quelqu'un, à partir du moment où c'est pas l'œil d'un cyclope qui te terrorise, mais c'est quelqu'un qui t'aide à te réunifier, on va dire. Réunifier. Cette question, elle est clinique, elle est importante, c'est-à-dire aider quelqu'un à se réunifier un peu. Tu vois, là c'est des petits, c'est des détails, mais en fait, quand leur importance, on en reparlera si tu veux. Qu'ils viennent le temps où les cœurs s'éprennent, parce que sinon, si on ne fait pas le pari qu'une psychiatrie autre est possible, et c'est cette phrase là quoi. L'espoir, lui, comme un caillou dans un creux. Ne désespérons pas trop.
Ah non, mais justement, moi, mon espoir est plutôt dans les groupes d'entraide. Grosso modo, ouais. Je dis pas, il n'y a plus qu'à se flinguer. Je dis, je pense que dans les groupes d'entraide, c'est pas parce que tu es dans l'entraide que ça signifie que tu vas te dissoudre dans les gens avec qui tu partages des expériences.
Peut-être qu'ils sont réunifiés. Alors, peut-être que dans les groupes d'entraide dont tu parles, les personnes, les sujets dont tu parles, sont justement suffisamment réunifiés pour pouvoir être en lien les uns avec les autres. Mais, voilà. Mais je ne suis pas certain que ce soit non plus complètement un modèle idéal. Il y a eu un moment donné à Montreuil, il y a quelques années, des groupes de déconstruction de la psychiatrie qui me paraissaient très intéressants, où on était tous là entre nous, personne, voyait pas, il y en avait un qui était comme ci, l'autre qui était comme ça, un qui était psy, l'autre pas. Ça, c'était génial. Alors, je ne sais pas si tu appellerais ça un groupe d'entraide, mais en tout cas, ça circulait de manière politique, artistique, clinique. Tu vois, je pense que c'est sur... Mais c'est plein de foyers locaux de résistance au pouvoir, on va dire, psychiatrique, managérial, aussi. Tu vois, moi, je serais pour casser les murs de DRH.
Je te fais aucun procès de ce genre.
Je sais. Mais franchement, je vais bien en parler avec vous quand vous voulez.
En tout cas, merci d'être venu par trois fois à notre émission.
Ah, mais merci à vous, c'était sympa.
La prochaine fois, peut-être la semaine prochaine, soit tu n'as pas André la semaine prochaine.
Oui, j'ai André. Voilà. J'ai André.
Ouais, la semaine prochaine, je ne suis pas là, mais après.
Nous invitons André la semaine prochaine, André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Ainsi termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et on écoute Astéréotypie, l'école de Paris.
C'est non. Et s'il vous plaît, monsieur, allongez-vous là. Allongez-vous là, s'il vous plaît. fête, on fait n'importe quoi. Au lycée, les gens aussi font n'importe quoi. Ils cassent les crayons, les tableaux, les plats. Là, il est 11h moins le quart. Et là, je suis en retard. La maîtresse va me gronder. J'irai dans le bureau du directeur. C'est une école à Paris dans le 27e arrondissement, rue Jean-Louis Pasteur. On me gronde parce que je n'arrive pas à faire des efforts. On me gronde parce que je ne suis pas fort. Maintenant, il est midi moins 20. J'ai très faim. Je suis privé de repas. Je suis privé de plats. L'école de Paris est grande, beaucoup plus grande que la classe de Christine au centre. C'est pas un vrai lycée ici. Ici, on est dans un établissement pour autistes. Dans une classe de l'éducation nationale pour autistes. L'école de Paris est très grande. J'ai peur que les gens viennent me taper et les filles me crachent dessus. Et après je pleure. Où est donc passée ma maman? J'ai envie de la retrouver à la maison. Je vais dire à mes parents que cette école est plus terrible que la mienne. C'est une prison, j'ai peur de l'école ordinaire. J'aurais peur si j'étais au lycée. J'aurais peur si j'étais au lycée.